Le village s'appelle Argentré et les gris lumineux des nuages d'octobre lui donnaient bien une teinte argentique. La terre était mouillée comme du papier photographique et la principale activité du week-end avait été de contempler les affleurements plissés de l'argelette, une variété locale de schiste feuilleté, sous l'eau d'une mare qui, fraîchement curée, n'avait pas connu depuis un siècle une telle transparence. C'était la mare de mon grand-père, presque centenaire lui aussi, et j'avais été surpris en lui rendant visite aux urgences de l'hôpital où il avait été admis après une mauvaise chute par l'égale transparence de sa peau. La dégradation des choses a toujours été son grand souci. Je l'ai toujours vu, enfant, comme un guerrier préhistorique, tailler des bâtons, polir des outils et ligaturer à l'arc électrique toutes sortes d'objets métalliques. Il luttait sans relâche contre le passage du temps, contre la pourriture du bois et la reprise des ronces. Il graissait sans fin ses engins agricoles et repeignait en noir à l'huile de vidange les portes des étables. L'entretien de ses clôtures et de ses haies pouvait le mobiliser jusqu'en pleine nuit quand il était surpris par l'arrivée soudaine d'une vache dans la cour. Événement que je ne peux que rattacher à cette autre brutale effraction dont j'avais été le témoin enfant, quand les viscères d'une vache, que le vétérinaire venait d'inciser pour pratiquer une césarienne, s'étaient brutalement déversés sur une planche de bois. Il aurait aussi existé, en des temps lointains seulement accessibles aux détecteurs de métal, une mare que mon grand-père aurait lui-même comblée en la remplissant de ferraille. Les travaux des champs sont désormais plus doux. J'ai aidé à replacer une ancienne auge, longue comme un cercueil mérovingien et désormais remplie de pensées, sur la pelouse qui mène à la mare désormais transparente. Et j'ai déversé des cailloux gris dans les incises aquatiques du ciel qui crevaient ici ou là la cour. J'ai aussi aspiré ma voiture, remis une bûche dans le feu, longé une rivière, acheté un rôti et caressé un chien qui s'appelait Netflix, une belle partie de campagne. J'ai discuté aussi de tracteurs avec mon oncle, arrivant à la conclusion que cela serait pour les enfants une belle leçon de choses, que d'en démonter un, je pouvais sans doute en trouver un sur le bon coin pour le prix d'un ordinateur. J'avais d'ailleurs entreposé ma collection de Minitel ici même, dans l'ancien poulailler qui sert aux enfants de salle informatique. Cela compense un peu l'impression générale que m'a toujours fait la campagne, celle d'être une machine mal finie, une machine au carter éclaté, au fonctionnement douteux. J'ai besoin d'imaginer un tracteur pour supporter vraiment le spectacle des champs, le tracteur comme une sorte de soupape de sécurité au désordre de la nature. De la même façon, les haies vives m'angoissent toujours un peu par leur caractère ambigu. On ne sait jamais si on pourrait ou non les traverser, si c'est du végétal ou du bâti. Ce portillon que les ronces engloutissent, je l'empruntais autrefois et aucune plante ne me consolera jamais de la disparition de cette archaïque charnière, de ce loquet humanisé devant les murs, je pense, pour me rassurer à des bocaux de confiture étanche. Si je vivais à la campagne, mon bilan carbone serait abominable. Je posséderais de la souffleuse à feuilles au quad en passant par le motoculteur et la motopompe, au moins une douzaine de moteurs thermiques. J'essaie donc de garder mes distances et de demeurer le plus longtemps possible un parisien un peu sauvage. J'ai peur d'une acculturation trop rapide. Après m'en être un peu moqué et dénoncer en elle un élément de folklore fin à l'américaine, j'ai pourtant fini par céder à l'appel fallacieux du terroir en entrant dans la salle des fêtes pour assister à la fête de l'automne, événement prétendument traditionnel qui se déroulait ici pour la première fois. C'était comme un petit salon de l'agriculture avec bien rangé sur les tables plus d'une centaine d'espèces de pommes posées sur des assiettes en plastique blanche. Il y avait aussi une sorte de crèche grandeur nature, avec des hulottes empaillées, des vestes de loup et des citrouilles gravées d'impressionnants messages. On pouvait également essayer un instrument de musique électronique qui mêlait habilement des demi-pommes, des fourchettes et une carte Arduino. J'ai fait un selfie prémonitoire que j'ai envoyé à un ami qui m'a fait part d'une impression dérangeante que j'avais moi-même depuis quelques minutes. On dirait vraiment une chronique préécrite d'Aurélien Bélanger, comme si j'étais à mon tour devenu transparent au paysage.